Et je lance le générique de l'émission. Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous allons parler du bien-être animal, entre autres, avec nos trois chroniqueuses. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour Talia.
Bonjour.
Bonjour Kayla. Ah, je n'allume pas le bon micro, on ne va pas t'entendre. Bonjour Kayla.
Bonjour.
Et notre invité, c'est Franck. Bonjour Franck.
Bonjour.
Alors mesdames, je vous laisse la parole pour nous expliquer qui est votre invité.
Ce samedi dernier, nous sommes allés à la SPA de Luynes pour découvrir ce que c'était. En sortant de la SPA, nous avons fait quelques recherches avant de venir ici. La SPA se dénomme Société Protectrice des Animaux. Elle a été créée en 1845 par le docteur Étienne Parisset afin de protéger les chevaux maltraités. La SPA a été reconnue d'utilité publique en 1860. C'est la première association de protection animale en France. La SPA ne vit que grâce à la générosité de ses donateurs. Elle a pour but d'améliorer par tous les moyens qui sont en leur pouvoir le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires qui les protègent et de leur accorder assistance et de participer en ce sens à la sensibilisation de l'opinion publique. Le signe SPA symbolise sa dénomination et sa devise « Sauver, protéger, aimer ». Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Et sinon, on commencera à vous poser quelques questions.
Eh bah, bien, écoute, pour l'instant, ça va. T'as à peu près tout dit sur la description. On est alors les refuges SPA, il y en a un peu partout en France. Il y a le refuge de Luynes, donc qui est sur la région Tourangelle. Mais il y en a un petit peu partout. Il y en a au Mans, il y en a à Paris, il y en a absolument partout. Le but, c'est vraiment de couvrir la zone la plus large possible pour trouver tous les chiens, tous les chats errants, tous les chevaux, les chèvres qui en ont besoin.
Quel est votre statut au sein de la SPA?
Alors moi, je suis soigneur là-bas. Donc ça veut dire que je suis là du matin au soir, le matin surtout pour faire du nettoyage, donc nettoyer tous les box des chiens, des chats qu'on a sur le refuge, pour faire les soins quotidiens, s'il y en a qui ont des petites otites par exemple, s'il y a des médicaments à donner. Et l'après-midi, je suis là pour conseiller les familles qui viennent adopter les animaux. Je suis là pour faire en sorte de trouver la bonne famille pour le bon animal, pour aussi entretenir le site s'il y en a besoin, entretenir... Les box, faire des petites réparations sur des clôtures ou des choses comme ça.
Combien d'heures environ travaillez-vous avec les animaux?
Ouh, beaucoup. alors, le refuge est ouvert de 14h à 17h. Nous, on est là du matin au soir. En général, on commence de 9h, à peu près 9h, jusqu'à 17h30, 18h. Et ça, tous les jours.
Ça fait combien de temps que vous travaillez à la SPA?
Ça va faire bientôt un an que j'y suis.
Comment faites-vous pour gérer vos émotions face à la tristesse des animaux?
Eh ben, on se dit qu'on est là pour eux, qu'il faut qu'on soit là de toute façon, peu importe ce qui se passe. On n'a pas le choix. Les animaux, ils ont besoin de nous, ils peuvent pas se gérer tout seuls, ils peuvent pas rester dans la rue, surtout avec l'hiver qui arrive. Donc on n'a pas le choix. Même si c'est dur de les voir comme ça, même si des fois on voit des chiens qui sont dans un état qui est pitoyable, si on voit de la maltraitance, ben, il faut qu'on soit là quand même.
Si vous n'auriez pas travaillé au refuge, vous seriez orienté dans quel autre métier?
C'est pas facile comme question, ça. Alors, avant d'arriver au refuge, je travaillais dans des zoos et dans des refuges avec des animaux sauvages. Donc, si j'étais pas entré au refuge de la SPA, j'aurais continué là-dedans, je pense.
Avez-vous vous-même adopté un animal à la SPA?
Oui, alors j'ai adopté un chat pour l'instant. C'est la première étape, je pense, parce que je sais que je craquerai bientôt pour plein d'autres animaux.
Et par contre, ça doit pas être simple de s'attacher à des animaux et puis de les voir partir après quand on connaît leur histoire.
C'est pas facile dans le sens où il y en a qui restent des fois très très longtemps. On a par exemple un chien qui était là depuis 4 ans bientôt, qui est parti il y a 3 semaines maintenant. C'est pas facile parce qu'on s'y attache, c'est un peu comme nos petits loulous, on est là tous les jours avec eux du matin au soir. Quand ils vont pas bien, on est là. Quand ils vont bien, on est là aussi. Quand ils en ont besoin, on est toujours présent pour eux. Après, notre but, c'est pas de les garder sur leur refuge, c'est de faire en sorte qu'ils aillent dans une famille et qu'ils aient une vraie petite vie de famille, qu'ils puissent faire leur petite vie sur le canapé. Donc, on est super content quand ils partent, même s'il y a quand même le petit pincement au cœur parce qu'on s'y attache un peu.
Combien avez-vous de chats et de chiens, si vous savez, au refuge?
Alors là, sur le refuge, pour l'instant, on a à peu près 90 animaux. On a à peu près 30 à 40 chats et un peu plus de chiens, en sachant que des fois, ça peut monter à beaucoup plus. Cet été, par exemple, on avait 150 chats en même temps. On était à presque 80 chiens à l'adoption. On essaye de les faire partir. Si vraiment on n'a plus de place, on peut faire des transferts vers d'autres refuges qui, eux, ont un petit peu de place pour pouvoir accueillir les nouveaux. En l'occurrence, les chiens de fourrière qui sont récupérés dans la rue, qui arrivent toutes les semaines. Donc on a tout le temps besoin de place.
Quel est le pourcentage d'animaux qui arrivent par semaine chez vous?
Alors, pourcentage, ça dépend des jours. Je ne saurais pas vraiment dire en pourcentage. Ça dépend des jours, ça dépend des périodes. En été, il y a beaucoup, beaucoup d'abandons. Il y a beaucoup de chiens qui sont récupérés par la fourrière dans la rue parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances et qui laissent leurs animaux dans la forêt parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper, parce que ils ne sauraient pas à qui les donner en attendant. Là, cette semaine, par exemple, on a un chien et quasiment 10 chats qui sont arrivés par la fourrière. On a eu pas mal d'abandons aussi. Donc ça dépend vraiment des périodes.
Est-ce que c'est plus fréquent que les gens ramènent leurs animaux plutôt qu'ils les abandonnent?
Ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend des moments. Il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner leurs animaux parce qu'ils ne peuvent plus s'en occuper. Il y a par exemple des personnes qui partent en maison de retraite et qui ne peuvent pas emmener leurs animaux là-bas. Donc ceux-là, on peut les récupérer sans souci. Il y a des personnes qui ne peuvent plus s'occuper de leurs animaux parce que il n'y a pas eu les bonnes bases d'éducation, le chien détruit tout dans la maison, donc les gens ne veulent pas s'embêter avec. Et du coup, ils nous les amènent. Après, il y a beaucoup de chiens qui sont trouvés dans la rue. Malheureusement, on ne peut pas savoir s'ils ont été vraiment abandonnés et jetés par leur propriétaire, ou s'ils sont juste enfuis, mais qu'ils n'étaient pas identifiés, donc on n'a pas pu retrouver le propriétaire. Donc ça, je ne saurais pas vous dire. Ça dépend vraiment du chien, ça dépend de la situation des personnes.
Combien de refuges existent-ils en France ?
Alors on a une cinquantaine de refuges, en sachant qu'on a un refuge qui est un petit peu spécial, qui récupère tous les animaux de ferme, donc tout ce qui va être les vaches, les cochons, les chèvres. Comme ça permet à tous les autres refuges de se concentrer sur les chiens, les chats et sur les nacs, donc tout ce qui est lapins, les rats, des cochons d'Inde ou des petites choses comme ça.
Est-ce que vous avez perdu vraiment tous les nacs ou quelques sortes de nacs, enfin pas tout, si?
Alors on récupère pas tout, c'est-à-dire que nous on va récupérer tout ce qui est rongeur. Les oiseaux, c'est le grand refuge qui s'en occupe. Les reptiles, on les fait partir vers des endroits qui sont plus spécialisés, parce que déjà on n'a pas forcément les agents qui sont formés pour avoir des serpents sur place, par exemple, et on n'a pas forcément le matériel pour non plus. Donc nous, on se concentre vraiment sur tout ce qui va être rongeur pour les nacs.
Quel est le pourcentage d'animaux maltraités en tout sur tous ceux que vous récupérez?
Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il y a beaucoup d'animaux qui ont officiellement pas subi de maltraitance, mais dans le comportement, on voit bien qu'ils sont très craintifs vis-à-vis des inconnus, vis-à-vis des gens qui vont avoir des gestes un peu trop brusques. Donc, on peut pas vraiment savoir le passif du chien, donc on peut pas vraiment avoir de pourcentage, mais il y en a beaucoup. Je pense que la grande majorité des animaux qui sont sur le refuge ont subi un petit peu de maltraitance, ne serait-ce qu'un minimum.
Pratiquez-vous l'euthanasie au refuge? Si oui, combien de temps gardez-vous un chat ou un chien sans penser à l'euthanasie?
Alors l'euthanasie, c'est un petit peu spécial. C'est-à-dire qu'on ne pratique pas l'euthanasie si l'animal est longtemps au refuge. En gros, si un animal est trop longtemps chez nous, on le fait partir vers un autre refuge pour qu'il essaye de voir d'autres familles, pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir le voir. L'euthanasie, c'est vraiment pour des chiens qui vont être en fin de vie, pour des chiens qui vont être malades, qui vont avoir des grosses maladies ou qui sont vraiment en souffrance et qu'il n'y a pas du tout d'autres moyens. Ça arrive très rarement, ça fait toujours mal au cœur forcément quand ça arrive. Donc on essaye vraiment de le faire au minimum, on pratique tous les soins au maximum. S'il y a des opérations à faire, même si ça coûte très cher, on va les faire quand même. Le but, c'est vraiment que l'animal soit le mieux possible et qu'on le fasse partir en famille plutôt que de l'euthanasie. Après, des fois, malheureusement, on n'a pas le choix. Si c'est des animaux qui sont beaucoup trop vieux, qui peuvent pas du tout survivre au refuge, ou si c'est des animaux qui vont être vraiment trop malades et qui seront en souffrance toute leur vie, malheureusement, des fois, on n'a pas le choix.
Combien de pourcentage de chiens vous avez adoptés, enfin, ont été adoptés cette année?
Alors, cette année, quasiment tous les chiens qui sont là depuis un an ont été adoptés, mis à part 3 ou 4. Les chats, c'est pareil, mis à part quelques petites exceptions. En général, les animaux qui vont vraiment rester longtemps, c'est ceux qui sont soit trop vieux, donc forcément ça attire beaucoup moins, ou les animaux qui vont avoir des gros problèmes de comportement. Des chiens ou des chats qui vont être très craintifs et qui ont du mal à s'approcher. Des chiens ou chats qui ont subi de la maltraitance et qui du coup vont être un petit peu agressifs envers les personnes qu'ils connaissent pas. La plupart du temps, on arrive à faire partir les chiens ou les chats dans l'année. Après, il y a quelques petites exceptions de temps en temps.
Combien de jours les familles ont si leur animal ne leur plaît pas ?
Alors, si l'animal leur plaît pas, en général, ils le prennent pas. Ils l'emmènent pas à la maison. Il y a des animaux pour lesquels on va demander plusieurs visites aux familles pour qu'ils puissent venir l'adopter. C'est-à-dire que des chiens qui sont un peu trop craintifs, où ils vont vraiment avoir besoin de temps pour être adoptés, pour être bien dans leurs pattes avec les personnes qui seront avec eux à la maison, les personnes qui vont les adopter vont devoir venir plusieurs fois. Donc déjà, ça fait un petit tri dans les personnes qui vont l'adopter. Des personnes qui ne seront pas trop motivées pour adopter un chien ou un chat, en général, ils reviennent pas. Après, si vraiment il y a un gros problème à la maison, si le chien ou le chat fait énormément de bêtises, des fois, il y a des personnes, malheureusement, qui, même si elles sont prévenues, acceptent pas de garder l'animal. Donc on leur laisse un délai de 30 jours, grand maximum, pour récupérer l'animal. On évite au maximum de le faire. Les gens sont prévenus de tous les petits soucis qui peuvent arriver en maison. Si le chien a des problèmes de comportement, on les prévient. On leur dit toujours tout ce qui peut se passer, que le chien peut détruire, que le chien ou le chat peut avoir peur des inconnus, peut être des fois agressif si on fait pas attention, peut faire de la protection de ressources. Après, c'est aux personnes de prendre leurs précautions, c'est à eux d'être prévenus et de vraiment prendre en considération tous les petits problèmes que l'adoption peut causer après. Et malheureusement, des fois, ça marche pas. Des fois, il y a des personnes qui supportent pas les petits problèmes qui vont arriver après l'adoption, donc ils veulent quand même nous le ramener. Donc on laisse un délai de 30 jours maximum.
Quels sont les frais et les vaccinations obligatoires pour les chiens à l'adoption ?
Alors, ceux qui partent à l'adoption, ils sont tous vaccinés, ils sont tous pucés et ils sont tous stérilisés. Donc il n'y a aucun frais à prévoir là-dessus. Par contre, le vaccin, c'est à refaire tous les ans. Donc un vaccin, c'est entre 50 et 60, 70 euros à peu près. Donc après, c'est aux personnes qui adoptent l'animal de prévoir le prix en fonction de ça.
Pratiquez-vous la stérilisation à bas prix pour les familles sans moyens ?
Ouais, alors on peut donner des aides, ça peut aller jusqu'à 50% de la stérilisation, du coût de la stérilisation. Par contre, c'est sur présentation d'un dossier, c'est-à-dire qu'on va le faire que chez des personnes qui sont pas imposables.
Quels sont les motifs les plus courants que vous entendez le plus quand un animal arrive au refuge ?
Alors la plupart du temps, mis à part les fourrières qui du coup sont des animaux qui sont trouvés dans la rue, c'est soit des personnes qui partent en maison de retraite et qui du coup peuvent plus garder leur animal, soit des personnes qui veulent plus s'occuper de leur animal parce que ils ont plus le temps, parce que l'animal fait des bêtises à la maison, ou alors c'est des personnes qui vont tomber malades et qui peuvent plus être assez présentes pour leur animal. Après, des fois, il y a aussi des gens qui partent en vacances et qui du coup se disent j'en veux plus.
Est-il déjà arrivé que l'un de vos animaux arrivants contamine d'autres animaux dans le refuge ?
Alors, on fait toujours une petite période de quarantaine. N'importe quel animal qui va arriver fait une période de quarantaine. Ça peut durer jusqu'à une semaine selon l'animal. Si vraiment l'animal est très malade, s'il a besoin de l'isoler pendant encore un peu plus de temps, on laisse côté quarantaine. Comme ça, il n'y a aucun contact avec les autres animaux, au cas où.
Mettez-vous les animaux en quarantaine ?
Tous ceux qui arrivent.
Vous est-il déjà arrivé de récupérer des animaux blessés sur des voies routières ?
Très souvent. Très très souvent. Alors, tous les animaux qui sont récupérés dans la rue, c'est la fourrière qui les récupère. Ils sont en partenariat avec un vétérinaire. Donc on va dire que les grosses opérations à faire en urgence, elles sont déjà faites quand le chien arrive chez nous. Après, ça arrive très souvent qu'il y ait des soins réguliers à faire sur des blessures, sur des oreilles qui sont pas en bon état. Il y a souvent des médicaments à donner aussi. Si l'animal était malade, s'il attrapait froid, s'il a mal quelque part, par exemple.
Est-ce que vous proposez aux familles qui veulent adopter de participer à la formation de chiens guides d'aveugles ?
Alors ça, c'est pas en rapport avec nous. C'est une autre association qui s'en occupe. C'est possible. Après, ça peut être compliqué dans le sens où les animaux qui sont chez nous, ils ont souvent un passif qui est relativement lourd. La plupart du temps, les chiens qui sont guides pour aveugles, c'est des chiens qui sont entraînés pour ça dès le plus jeune âge. Les nôtres, on en a très très peu qui arrivent vraiment tout petits. La plupart, ils sont déjà quasiment adultes, voire des fois très âgés. Donc c'est un petit peu compliqué. Après, c'est pas impossible que les personnes qui adoptent le chien, là en l'occurrence, aient envie de se lancer là-dedans. Ça, c'est complètement possible.
Que veulent dire les catégories 2 inscrites sur les affiches des chiens ou d'autres animaux ?
Alors, c'est les chiens catégorisés qui ont besoin d'un permis de détention. C'est-à-dire que si on prend des Rottweilers, par exemple, c'est des chiens qui, selon la loi, doivent aller chez des personnes qui connaissent bien la race, qui connaissent les problèmes que ça peut engendrer, et qui sont préparés à ça. Donc il y a une formation à passer, donc c'est un petit stage d'une journée, ça coûte à peu près 70€. Il faut une assurance spéciale et une autorisation de la mairie où vous habitez quand vous adoptez le chien. Il faut que l'animal soit toujours muselé à l'extérieur, dans les lieux publics. Donc c'est un petit peu contraignant, c'est des choses qu'il faut savoir avant d'avoir le chien à la maison. Donc c'est juste des chiens catégorisés, il y a un petit peu plus de choses à savoir. En soi, c'est exactement les mêmes chiens, ils ont tous plus ou moins le même comportement, ça dépend vraiment de leur passif avant.
Que encore une personne qui maltraite un animal ?
Alors, il y a des décisions de justice, il peut y avoir des amendes, il peut y avoir de l'emprisonnement. Si jamais il y a une personne qui maltraite un animal, s'il y a une plainte qui est déposée, la SPA peut récupérer les animaux. Si la personne qui maltraite l'animal a une interdiction de détenir des animaux, que ce soit chien ou chat, on les récupère. Et la personne peut avoir des très grosses sanctions. Après, ça dépend de la gravité de la situation, ça dépend de la personne, ça dépend du juge aussi sur lequel il va tomber.
Quelles sont les modalités pour devenir bénévole et de même pour devenir salarié ?
Alors, pour être bénévole, faut être motivé, déjà. Parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il faut avoir un petit peu de temps aussi. Pour les bénévoles, on propose des petites missions. Ça va aller de la promenade avec les chiens, puisque les chiens, malheureusement, on n'est pas assez nombreux sur leur fiche pour tous les sortir tous les jours. Donc, on a besoin de monde pour leur faire des petites balades en extérieur, ou même aller dans des parcs pour jouer avec eux. On peut avoir besoin d'aide sur le nettoyage des box le matin. On peut avoir besoin d'aide sur des petites missions extérieures au refuge, comme des collectes de dons dans des magasins, par exemple. Pour être bénévole, il n'y a pas vraiment de profil type. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe qui du moment que la personne connaît les chiens ou les chats. On fait des petites formations avant de laisser les personnes au contact des animaux, évidemment. Après, pour ce qui est du côté salarié, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de formation type. C'est par rapport à l'expérience qu'on a eue. N'importe qui, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent devenir salariés au refuge. Après, ça dépend vraiment de l'expérience qu'on a eue. Ça dépend du temps qu'on a consacré aussi, parce que c'est un métier qui est très prenant. C'est sur des horaires qui sont très très larges. C'est un métier qui n'est pas facile non plus. C'est très dur physiquement, parce qu'on court toute la journée. C'est dur moralement aussi, parce qu'il y a des chiens, des fois, qui ne survivent pas. Malheureusement, il y a des chiens qui arrivent en très mauvais état, ou des chats. Il y a des animaux qui sont là depuis très longtemps, qui vont être blessés, donc c'est pas forcément facile à gérer. Donc c'est pas le métier le plus facile. Après, on va dire que c'est un métier qui est accessible à beaucoup de monde, mais il faut la motivation et l'expérience derrière.
Y a-t-il un vétérinaire au refuge ?
Ouais, alors au niveau de l'équipe, on est 11 salariés agents animaliers. Il y a une vétérinaire et une assistante vétérinaire et la responsable du refuge.
Comment sont gérés les animaux en hiver ?
Alors en hiver, c'est à peu près le même principe que l'été, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments dans lesquels il y a plein de box qui sont chauffés. On a du chauffage à l'intérieur des bâtiments. Il y a un bâtiment qui est un peu plus isolé que les autres. Donc dans celui-là, l'hiver, on va mettre les chiens qui sont un petit peu plus fragiles. On va mettre les animaux qui sont un peu plus âgés, qui vont être trop jeunes ou qui sont un peu malades. Au niveau des chats, les chatteries sont chauffées, sont bien enfermées, donc pour ça, il n'y a pas de souci. Donc les bâtiments sont chauffés, on demande toujours à avoir des couvertures, donc on a besoin de dons là-dessus. S'il y a des personnes qui ont des couvertures, des draps ou des choses comme ça à la maison, on en a toujours besoin pour chauffer les paniers des animaux. Ça évite qu'ils soient vraiment dans le froid toute la journée ou toute la nuit.
Okay. Quelle est la différence entre être salarié et être bénévole ?
Alors salarié, déjà il y a une obligation de présence sur le refuge, c'est-à-dire qu'on est là du matin au soir. C'est une activité salariée classique, c'est-à-dire qu'on est sous contrat. Être bénévole, c'est sur le temps libre. C'est-à-dire que si vous voulez être bénévole, mais que vous pouvez venir qu'une fois par semaine pendant une ou deux heures, c'est pas grave, vous venez qu'une ou deux fois par semaine. Ça dépend vraiment de vous, ça dépend de la motivation, ça dépend du temps que vous avez à consacrer là-dedans. Alors que le côté salarié, il y a tout à faire. On nettoie, on donne à manger, on fait les soins et on est là jusqu'au soir. Tous les jours.
Eh bien, mesdames, je vous propose de faire une pause musicale dans cette émission. Je crois, Catherine, que tu avais choisi une musique. Qu'est-ce que tu avais envie de proposer à nos auditeurs ?
Unstoppable de The Score.
Alors, on écoute ça sur Radio Campus Tour et on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming out. We can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swinging like Ali, knocking out bodies, standing on top like a champion. Keep your silver, give me that gold. You'll remember when I say we can be heroes everywhere we go. Keeping us down is impossible, 'cause we're unstoppable. Every spotlight, every soundbite, everybody who gave up is just a fuel for wanting him more than anybody against us. They can say what they want now. Écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tour et avec moi en studio Catherine, Talia et Kayla qui posent 1000 questions à notre invité. Franck, c'est à vous mesdames.
Que veut dire emplacement provisoire ?
Alors, le placement provisoire, c'est... J'aime pas trop ce mot-là, mais on va dire que c'est une sorte de période test pendant laquelle un chien qui va avoir des petits problèmes de comportement ou alors un chien qui va partir avec d'autres animaux partent pendant un mois. Et pendant ce mois-ci, il va falloir que les personnes qui vont adopter l'animal surveillent comment ça se passe. Si ça se passe très bien, s'il n'y a aucun souci, les personnes doivent revenir au refuge au bout d'un mois pour faire les papiers définitifs et le chien part avec eux directement. Par contre, s'il y a des grosses tensions dans la maison, si les animaux se battent entre eux ou si les personnes sentent qu'elles peuvent pas du tout gérer les problèmes de l'animal, elles peuvent le ramener au refuge.
Est-ce que les familles reviennent souvent au refuge pour donner des informations de leurs animaux adoptés ?
Ça arrive. On est toujours super contents quand ils le font parce qu'on s'y attache quand même à nos petits loulous, l'air de rien. Il y en a beaucoup qui viennent au refuge avec ou sans l'animal, juste pour donner des petites nouvelles ou des fois pour demander des conseils parce que y a des petits problèmes à la maison. La plupart du temps, c'est des personnes qui nous envoient des nouvelles par Facebook ou par mail. Donc comme ça, on a des petites nouvelles. De temps en temps, on a des petites photos aussi. Donc on est toujours content de voir nos chiens ou nos chats. Et on poste tout ça sur la page Facebook du refuge de Luynes. Comme ça, tout le monde peut voir les nouvelles des chiens ou chats qui ont été adoptés.
Et que diriez-vous aux futures familles d'adoptants ?
Alors, je leur dirais de bien réfléchir, parce que c'est pas un choix facile d'adopter un animal, que ça soit un chien, un chat ou même un ac. C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de temps qu'il faudra investir avec l'animal. Il faudra le sortir tous les jours, que ça soit matin et soir et pas que dans le jardin. C'est possible qu'il y ait des petits problèmes à la maison, c'est possible que le chien ou chat détruise les coussins, le canapé ou la tapisserie. Ça arrive très souvent, malheureusement. Il faut du temps, faut de la patience, faut beaucoup d'énergie aussi pour beaucoup d'entre eux. Donc faut vraiment bien réfléchir à ça, faut être prêt à prendre son temps avec l'animal, à partir peut-être moins longtemps en vacances ou en tout cas moins souvent, ou alors à réfléchir aux destinations qui accepteront les animaux. Donc c'est vraiment un grand choix, c'est un grand pas à passer. Donc faut vraiment bien réfléchir pour pas avoir à ramener l'animal derrière.
D'accord.
Nous avons fini avec les questions.
Ah bah alors je vais en poser quelques-unes aussi, après tout il n'y a pas de raison. Donc, pour revenir sur tout ce que disaient nos trois chroniqueuses, je voudrais savoir comment vous faites pour savoir qu'une famille est la bonne, entre guillemets, pour une personne. Qu'est-ce qui fait que vous dites « ah là ça va marcher, là non ça va pas marcher ».
On fait un petit interrogatoire, je l'avoue.
Non, c'est-à-dire.
On fait alors les personnes qui viennent pour adopter un chien, si on prend par exemple un chien qui a toujours vécu en maison, qui a toujours eu accès à un jardin, un espace extérieur, qui avait des promenades quotidiennes matin et soir, une fois arrivé en refuge, il faut qu'on arrive à trouver une famille qui pourra lui offrir ses mêmes besoins, parce qu'il a connu ça. S'il est enfermé dans un appartement qui sort qu'une ou deux fois par jour pendant pas très longtemps, le chien va stresser. Il va faire de la destruction en maison, il va devenir peut-être un peu plus agressif. Donc c'est vraiment notre boulot de trouver la bonne famille. Donc on fait un interrogatoire, on demande où les familles vont vivre, dans quel environnement sera le chien ou le chat. On leur demande avec combien de personnes habiteront les animaux. On demande à ce que toutes les personnes qui vont habiter avec cet animal, donc que ça soit les parents ou les enfants qui habiteront avec le chien ou le chat, viennent rencontrer l'animal avant de le faire partir. Parce que les animaux, c'est comme nous, des fois ils ont leur tête, ça passe pas avec tout le monde. Donc le but, c'est pas qu'il y ait un souci à la maison et que les gens soient obligés de ramener l'animal. Donc on mène notre petite enquête. Et si besoin, on peut demander à aller chez les personnes pour vérifier les clôtures ou les choses comme ça. Si vraiment on sait que c'est un chien qui va être potentiellement fugueur, par exemple.
Et alors, il me semble aussi que vous avez sûrement dû le voir, ça, mesdames, quand vous avez visité le refuge. Il y a des animaux qui ont un code couleur. Voilà, je crois que vous avez vu ça. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus ?
Alors, le code couleur, c'est pour les bénévoles. En fait, on a des chiens qui ont des fois des petits problèmes de comportement. Donc, on peut pas laisser n'importe quel chien à n'importe quelle personne. Un bénévole qui vient tout juste d'arriver... il a besoin de se faire la main. On peut pas lui laisser le chien le plus compliqué du monde dès son premier jour. Donc on va dire qu'on classe un peu les chiens par couleur. Les chiens qui sont classés verts, c'est les chiens qui sont super cool, qui peuvent être sortis par quasiment n'importe qui. Donc on peut laisser les bénévoles, entre guillemets débutants, les sortir. Les chiens qui sont classés bleus, c'est les chiens qui sont très craintifs, qui ont potentiellement subi de la maltraitance avant d'arriver au refuge. Et qui ont besoin de vraiment prendre confiance avec les personnes avant de pouvoir sortir de leur box. Donc on a des bénévoles qui sont ce qu'on appelle les bénévoles chiens craintifs. Donc c'est des bénévoles qui vont devoir passer du temps dans le box avec le chien avant de pouvoir sortir avec lui. Pour tout simplement le désensibiliser aux inconnus. On va avoir les chiens qui sont classés rouges, donc c'est on va dire un peu au-dessus du vert. C'est les chiens qui peuvent avoir des petits problèmes s'ils sont tenus en laisse, mais qui sont quand même gérables. Et les chiens qui sont classés noirs, c'est ceux qui ont besoin de quelqu'un qui connaît vraiment, qui connaît l'animal, qui connaît les problèmes qui peuvent arriver quand il est tenu en laisse. Donc on a un petit classement, c'est vraiment pour les bénévoles, pour qu'ils puissent se repérer et pour qu'ils puissent se gérer plus ou moins en solo sans qu'on ait besoin d'être avec eux.
Alors je me tourne vers nos chroniqueuses, est-ce que ça vous a donné envie peut-être d'adopter un animal si vous n'en avez pas déjà un ou d'être bénévole à la SPA ?
Oui, personnellement.
Catherine, oui.
Oui, personnellement, j'aimerais beaucoup être bénévole et puis niveau adoption, franchement, je pense que je pourrais adopter tous les chiens s'il fallait.
Est-ce que tu as déjà des animaux ?
Non, ma situation ne me le permet pas, mais un jour peut-être.
Bon, merci. Je me tourne vers Talia.
J'aimerais vraiment avoir un animal, mais juste que mon père est allergique, donc je peux pas. Mais plus tard, je voudrais faire vétérinaire, donc oui, j'adore les animaux. Et j'en aurai, je pense, plus tard.
Ah, est-ce que Franck a une idée d'animal qu'on peut adopter quand il y a quelqu'un d'allergique à la maison ? Est-ce qu'il y a des animaux qui ne rendent pas allergiques ?
Alors, ça dépend de l'allergie. Il y a des chiens qui ne provoquent pas d'allergie. En gros, on a quelques espèces qui ont des cheveux et non des poils. Et du coup, qui provoquent pas d'allergie. Je saurais plus redire toute la liste exacte. Je crois que les Shih Tzu, ça provoque pas d'allergie, de mémoire. Après, il y a des chiens un petit peu plus gros aussi, si ce que tu veux, c'est pas un tout petit machin. Il y en a plusieurs, faut juste se renseigner sur l'espèce avant de l'adopter.
Et Kayla?
Moi, oui, j'aimerais bien, même si j'ai beaucoup d'animaux chez moi.
Ah, tu as quoi comme animal, alors ?
3 chats, un chien, des poules, des canards, des lapins, un coq et une biquette.
Eh ben...
C'est déjà pas mal.
Et comment tu fais, alors, au quotidien pour t'occuper de tous ces animaux ?
Je m'occupe des lapins et tout avec mes parents.
Bon. Je propose qu'on fasse une autre pause musicale. Alors cette fois-ci, c'est Talia qui a choisi une musique. Qu'est-ce que c'est cette musique ?
Dust It Down de Zayn et Sia.
Bon, on écoute ça sur Radio Campus Tour.
Trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you.
Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. But you know.
Life in the daytime is over. There's eyes on you everywhere. You know that, right? I'm watching you. My crew's watching you. You know your little homies? They pissed off. They mad at you, bro. Your name is mud on the streets. Oh, I know who you are.
You don't know me.
We were shot like a jacket. So do yours too. We will roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room?
'Cause I wanna touch you everywhere. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Yeah.
can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body.
Vous écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tour, en studio Catherine, Talia et Kayla, ainsi que Franck, l'invité du jour, soigneur à la SPA. Alors, si nous n'avons plus de questions pour notre invité, peut-être, mesdames, messieurs, que l'on peut proposer à nos auditeurs quelques films et autres à aller voir. Catherine, je crois que tu avais envie de proposer un film à nos auditeurs.
Oui, alors ça s'appelle Hachi et c'est l'histoire d'un chien qui a été très fidèle à son maître. Et un jour, son maître meurt. Le chien n'est pas au courant, il ne se rend pas compte. Et tous les jours, depuis la mort de son maître, il va l'attendre devant la gare. Et le jour où il meurt face à la gare. Et depuis, il y a une statue de lui qui a été érigée sur l'emplacement où il est mort. C'est une histoire vraie. Et le nom du chien est Hachi, qui signifie 8.
Voilà, donc on rappelle pour nos auditeurs que c'est un film de 2010 de Lars Hallström. Pardon si je prononce mal ce nom. Merci Catherine en tout cas de nous proposer ce film. Talia, je crois que toi aussi tu avais un film à proposer.
Oui, c'est Cheval de guerre de Steven Spielberg. Ça parle d'un poulain dans la Première Guerre mondiale. Ce film, il est vraiment touchant et si vous adorez les animaux et particulièrement les chevaux, vous allez adorer. Enfin, vraiment, il est triste et émouvant, quoi. Je vous laisse découvrir.
Voilà, soyez curieux, auditeurs. Et peut-être que Franck aussi a quelque chose à proposer.
Eh bien, écoute, il y a Mes vies de chien qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma. Alors, je pense que je vais te laisser en parler parce que moi, j'ai pas eu la chance de le voir, vu que tu l'as vu quasiment une centaine de fois.
Oui. Alors, en fait, c'est l'histoire d'un petit chien qui s'appelle Belly. Et il vit avec son maître. Et un jour, il va mourir comme tous les chiens. Et en fait, il va renaître, se réincarner dans un autre chien. Et au fur et à mesure de ses vies, il va rencontrer différents maîtres avec différentes situations. Et au final, il va retourner dans un corps de chien qui lui permettra de retrouver son maître initial. Et au final, c'est vraiment quelque chose de très touchant. On rit beaucoup, on pleure, on a de la compassion. Et c'est vraiment un film haute en couleurs. Franchement, je conseille vraiment d'aller le voir parce que moi, il m'a beaucoup fait pleurer. Je l'ai vu vraiment beaucoup de fois et je pense que je pourrais le voir encore une bonne centaine de fois.
Eh bien, merci à vous. Alors, avez-vous une dernière remarque, question à poser, mesdames, ou dans le public, avant que l'on clôture cette émission ? Ah, je vois une main qui se lève.
Il y a une question.
Il y a une question.
Je voulais savoir par rapport au bénévolat. Mmh. En fait, tu disais tout à l'heure qu'il y avait différentes.
Tu es un peu loin du micro.
Pour les catégories de chiens, en fait, susceptibles d'être promenés par les bénévoles. Et tout ce qui est chien de catégorie 2, staff. Il y a des pitbulls aussi, je crois. Non, on n'a pas vu. Non, on n'a pas vu. Non, c'est staff qu'on a.
Alors en ce moment, il n'y a pas de pitbulls. On a des staffs. On a énormément de chiens de catégorie.
Du coup, est-ce que ces chiens-là, vous mettez automatiquement une couleur noire ou alors non, ça peut être un chien qui peut tout
pas
à
du
fait
tout.
Être... Donc c'est vraiment des préjugés en fait. Enfin, des
complètement. Théories, on a plein de Rottweiler par exemple qui ont l'image du chien hyper agressif, qui doit toujours être muselé, qui a l'air hyper méchant, qui partent en famille avec des jeunes enfants et ça se passe toujours super bien, on n'a jamais eu de soucis. Et à côté de ça, des fois, on a des chiens beaucoup plus petits, des caniches, des bichons, des trucs comme ça, qui partent et qui posent plein de problèmes dans la famille. Donc ça dépend vraiment du chien, ça dépend de l'éducation qu'il a eue. Ça dépend du passif qu'il a aussi. S'il a subi de la maltraitance, mais il va être peut-être un peu plus méfiant ou un petit peu plus réactif. Mais ça dépend pas du tout de la race.
Alors quel intérêt finalement de mettre des catégories si ça dépend?
Parce que c'est, on va dire, vu comme des chiens qui à la base étaient des chiens d'attaque ou des chiens de combat. On a toujours l'image des combats de chiens dans des petites arènes. Bah ça vient de là. C'est des chiens. Alors, on va pas se mentir, quand il y a une morsure de Rottweiler, ça fait plus mal qu'une morsure de bichon. Par rapport à la dentition et par rapport à la puissance de la mâchoire surtout. Mais après, il y a des chiens qui ont des très grosses mâchoires et qui sont pas catégorisés du tout. Donc c'est vraiment par rapport au passif de la race. C'est la loi qui a été faite comme ça. C'est pas forcément facile à gérer, puisque si on a des chiens qui sont catégorisés, ça veut dire qu'il faut que les familles passent un petit stage avant. Donc ça freine quand même pas mal de monde, ce qui fait que des Rottweilers, par exemple, ont plus de mal à partir. Ils ont pas de chance parce que du coup, c'est une race qui fait peur, malheureusement. Alors que c'est souvent des loulous qui sont super cool, qui sont adorables, qui adorent les câlins. Mais ils font peur, donc en fait, ils ont pas de chance. Mais ça dépend vraiment pas de la race. Ça dépend juste du passif du chien.
Une dernière question, je ne sais pas si les filles vous le posez ou pas. Par rapport au stage que vous proposez, donc vous faites des stages pour les bénévoles, si j'ai bien. Enfin, une formation ouais. D'une journée, c'est ça ?
Alors, la formation pour les bénévoles, on va dire que si tu arrives en tant que nouveau bénévole, tu fais une petite après-midi de formation, déjà pour savoir ce qu'on fait ici, toutes les missions qu'on peut proposer. Tout ce qu'on fait à la SPA, on fait visiter le refuge pour que tu puisses un petit peu te repérer, parce que c'est grand quand même là-bas. Et on fait une deuxième formation qui va être une formation de terrain. Donc ça va être un après-midi de promenade de chiens, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à savoir avant de pouvoir partir avec un chien en solo dans les parcs ou dans les bois. Il faut ne serait-ce que savoir comment mettre un harnais sur un chien. Comment rentrer dans un box sans que le chien ne s'évade et se retrouve en liberté sur le refuge. Donc il y a plein de petites choses à savoir, c'est tout simple, mais du coup ça demande quand même une formation avant. Donc c'est pas des stages, c'est vraiment une petite formation pour que les bénévoles puissent aller en solo sur le terrain le plus rapidement possible.
Et les gens qui adoptent et les chiens qui ont des problèmes de comportement, en fait, est-ce que vous faites un peu de dressage avant de les mettre à l'adoption, ou alors vous proposez, une fois que le chien est adopté, des journées pour éduquer ou rééduquer l'animal, en fait?
On fait les deux. On fait les deux. Des chiens qui ont des gros problèmes de comportement sur le refuge, on va essayer de les régler. On va faire en sorte que le chien ait moins peur des inconnus. On va faire en sorte que le chien ne détruise pas ou beaucoup moins une fois arrivé en maison. On va le désensibiliser à beaucoup de choses, que ça soit aux chats, aux autres chiens, à la manipulation vétérinaire. Donc il y a plein de choses à faire. Après, on dit toujours que sur le refuge, on n'est pas des comportementalistes non plus, on n'est pas éducateurs canins. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On peut pas tout faire non plus puisqu'on a beaucoup d'animaux sur le refuge. On peut pas tous les éduquer à 100% pour que ça soit des chiens parfaits. Donc il faut qu'il y ait quand même un suivi et un après l'adoption. Ouais, faut qu'il y ait une orientation après. On demande souvent aux gens, si le chien a des petits problèmes, d'aller voir un éducateur canin ou un comportementaliste. Après, c'est que des conseils qu'on peut donner. Si les adoptants n'ont pas envie d'aller en voir, on peut rien faire de plus. Nous, on est là que jusqu'à ce que le chien soit adopté. Malheureusement, on peut rien faire de plus après.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose à déclarer? Oui, je vois qu'on dans le public, là, il y a... Non?
Il y a une autre question.
Ah.
Pour le plaisir de participer avec vous, c'est vrai que j'étais étonné ce que vous disiez par rapport au Rottweiler et à l'image qu'on peut en avoir, parce que c'est vrai que c'est un chien qui est vraiment vu comme un chien très menaçant, dangereux, et alors j'imaginais... Moi, j'aime beaucoup ce chien-là, je le trouve très beau, mais... Par exemple, j'ai des enfants et ça me ferait peur d'avoir un chien comme ça chez moi. Et alors, je me rends compte que c'est des préjugés, finalement.
C'est complètement des préjugés. Il y a plein de gens qui en ont très, très peur, que ça soit les rottweilers ou des staffs, ou tout ce qui a une vraiment très grande gueule qui peut faire très mal s'il y a une morsure. Après, c'est comme n'importe quel chien. Même un petit caniche peut faire très mal à un enfant. Ça dépend vraiment de la race. Si le chien a bien été éduqué, il y aura aucun souci en maison. On a déjà fait partir des chiens catégorisés avec des enfants. Après, on fait pas partir n'importe quel chien non plus. Si on sent que c'est un rottweiler qui va être un peu brut, qui peut être un peu compliqué à gérer, on va choisir la famille aussi. Mais un rott ou un staff qui va avoir aucun souci de comportement, qui va être très câlin, qui réagit très bien à des manipulations vétérinaires, il n'y a aucun souci pour le faire partir en famille avec des enfants. Donc ça dépend vraiment du chien. Mais ça peut faire peur.
Et donc on entend aussi que ça dépend beaucoup de la famille finalement, que c'est vraiment pas... C'est pas rien d'adopter un animal, ça engage beaucoup et il faut pas adopter un animal
ça.
Sans...
Faut pas que ça soit un coup de tête, on va dire.
Exactement.
Faut pas que ça soit... c'est un peu bête comme image, mais prenez pas un chien pour un cadeau de Noël, en gros. Il y a plein de chiens qui sont pris pour des petits cadeaux. Souvent, on a des gens qui viennent et qui nous disent « Je cherche un chien pour ma mère ou pour mon frère ou ma sœur pour lui faire un cadeau. » Et bah, du coup, c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Le chien a quand même un passif relativement lourd derrière lui. C'est pas un chiot. Il a vécu beaucoup de choses. C'est des chiens qui, des fois, vont avoir peur de certaines personnes. Si, un exemple tout bête, un chien a été tapé par un grand barbu un jour, bah c'est possible que du coup il ait peur des grands barbus toute sa vie. Donc s'il part dans une famille où il y a des gens qui ressemblent à des personnes qui lui font peur, ça va être très compliqué pour lui d'être bien dans ses pattes, de pas être stressé, et du coup de pas faire de bêtises à la maison. Donc il y a vraiment des petites précautions à prendre quand on fait adopter un chien, et quand on adopte un chien surtout.
Mais ce qui est intéressant néanmoins, c'est de voir qu'un chien qui a déjà eu une première vie dans une famille dans laquelle ça s'est pas bien passé, par exemple, peut garder espoir d'être accueilli à la SPA et puis de rencontrer une famille avec laquelle ça va bien se passer.
Complètement.
Donc il faut garder l'espoir, quoi.
Toujours. Il faut surtout pas baisser les bras. De toute façon, on est là pour ça, on est là pour eux. On fait toujours en sorte de trouver une famille. Des fois, ça prend du temps. On parlait de Sam tout à l'heure qui était là depuis 4 ans. Ça a pris beaucoup de temps, mais bah on a quand même réussi à trouver. Il a eu un gros passif, il a fait plusieurs familles avant, ça s'est pas toujours forcément bien passé. Maintenant, il a réussi à trouver. N'importe quel chien peut réussir à trouver une famille. Normalement, on y arrive.
Merci.
Eh bien oui, merci. Il me reste à remercier tous nos invités et chroniqueuses pour cette émission qui touche déjà à sa fin. Merci donc Catherine, Talia, et Kayla pour votre participation à cette émission. Et merci à Franck, soigneur à la SPA. Avant de se quitter, peut-être qu'on peut rappeler comment vous contacter et où trouver des informations sur le refuge de Luynes.
Alors sur le refuge de Luynes et sur tous les refuges en général, on peut aller sur le site internet de la SPA. On peut trouver n'importe quel refuge sur ce site-là, on peut trouver tous les animaux qui sont à l'adoption. On peut nous contacter via Facebook aussi, on a notre page Facebook, donc SPA de Luynes, tout simplement. On peut avoir des informations sur tous les animaux qui ont été adoptés, sur des animaux qui sont à l'adoption aussi, sur des petits événements ponctuels qui peuvent arriver dans pas très longtemps également. On peut nous contacter par téléphone, même si on ne peut pas répondre à tout le monde malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaye de nous contacter. Sinon, on peut nous contacter par mail. Donc on peut trouver l'adresse du refuge sur Internet directement.
Merci. Je rappelle que cette émission sera rediffusée ce soir à minuit et bien sûr en podcast sur notre site radiocampustour.com. Bonne journée à tous, à l'écoute de nos excellents programmes. Thank you.